Bonsoir chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Galère dans votre émission La Cité Métisse. Musicienne de talent rare et à la sensibilité vibrante, Annick Auzier-Lafontaine incarne une figure incontournable de la scène musicale caribéenne. Pianiste, compositrice et pédagogue martiniquaise, son parcours mêle avec finesse tradition classique, inspiration créole et ouverture aux musiques du monde. Formée au conservatoire, nourrie de jazz, de musique contemporaine et de rythmes antillais, elle développe un langage musical à la fois intime et universel, souvent empreint de spiritualité et de quête identitaire. Sa musique, à la fois puissante et délicate, explore les liens profonds entre l'âme, la nature et la mémoire. Au fil des années, elle a su transmettre son art avec passion, que ce soit à travers ses compositions, ses performances ou son engagement dans la transmission culturelle. Annick Auzier-Lafontaine, c'est une voix singulière, résolument libre, qui fait vibrer l'invisible et révèle l'essence des choses. Nous vous laissons en sa compagnie pour apprécier un extrait de son album L'Envol, intitulé « Les ailes du temps ».
Comme vous le savez, j'ai récemment eu l'occasion de m'évader sous le soleil de la Martinique. Lors de mon voyage, j'ai eu la chance de rencontrer un homme exceptionnel, un véritable ancré à sa terre, prénommé Jasmine. Ce dernier est en train de développer un projet passionnant d'écotourisme, centré sur la permaculture, qu'il a nommé la Roche Perma, située au nord de l'île, dans la commune de Fonds-Saint-Denis. J'ai été touché par la vision de Jasmine et par l'impact positif de son travail. J'en ai profité pour recueillir son témoignage. Voici donc en exclusivité pour la Cité Métisse son histoire et son projet.
Ce soir, Gary est parmi nous. Mais vous me direz, les amis, qui est Gary? Si je vous parle de Mona Georges-Alain et de sa présidente Lucie Cassan du collectif Mamanté, ça y est, vous arrivez à capter? Eh bien, lui aussi fait partie de cette belle association. Il vient ce soir nous présenter la nouvelle édition 2025 du célèbre festival Cadence Caraïbes, un événement haut en couleur qui célèbre la richesse musicale des Antilles. Le festival se déroulera chez nous à Marseille le samedi 17 mai à la Cité de la Musique et se terminera en beauté musicalement avec un concert du quartet de Cléa Abraham. On en parle tout de suite avec lui. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices fidèles et curieux, curieuses de passage, installez-vous confortablement car aujourd'hui, nous avons concocté un plateau 100% premium, saveur 7e art et lumière du Sud. À ma gauche, un homme aux mille vies, derrière la caméra, artisan de l'image et chef-d'œuvre de l'esthétique. Donc il a signé, monté, dirigé, illuminé, bref, tout sauf rester dans l'ombre. Aujourd'hui, directeur artistique à France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur, il répond au nom de Nicolas Debru, mais dans le game, on l'appelle Lasco.
Hello.
Toujours à ma gauche, juste à côté de lui, l'œil affûté, la caméra vintage vissée au point. Il parcourt les festivals, les coulisses, les tapis rouges et les trottoirs du cinéma français et international. Il capte l'instant et fait parler les voix du 7e art dans son émission devenue culte, Abdoul fait son cinéma. Ils sont là, ils sont chauds, ils sont prêts. Deux passionnés, deux regards, deux énergies et un seul micro aujourd'hui pour croiser les mondes et faire vibrer les ondes. Et comme au cinéma, et pour respecter la tradition, nous allons nous aussi avoir notre clap de début pour annoncer aux acteurs et à l'équipe que l'émission commence. Donc je déclare ouverte la 68e édition de la Cité Métisse. Yes, salut Gary.
Salut.
Salut Lasco.
Bonsoir tout le monde, merci pour l'accueil.
Hello Abdoul, coucou Rita.
Salut, salut.
Comment vont les bros?
Salut.
Les Char et Fred.
Hello, bonsoir à tous, bonsoir à la team.
Alors nous sommes très honorés les amis avec toute la team de vous recevoir ce soir sur le plateau de Radio Galère, donc bienvenue dans votre émission.
La Cité Métisse, quatre personnalités, une seule identité.
Les amis, on va attaquer comme d'habitude avec un magnifique son, donc avec un artiste qui est basé à Chicago, mais qui est originaire de Rio de Janeiro, au Brésil. Il s'appelle Nadi Brown. Il crée des rythmes old school, basés en fait sur des samples mêlant du funk, soul, jazz et des influences latines et africaines. Il s'est récemment spécialisé dans le micro-échantillonnage, ce qui a permis de transformer des petits fragments sonores en nouvelles créations. Nous allons le découvrir ce soir avec son dernier single intitulé « E Pedra ». En collaboration avec Carlos Malta et Ramon Zin. Let's go, DJ!
Música boa é aquela que voa. Tô na criação, faz favor, me incomoda agora não. Hora de fazer som, meu bom. Hoje eu vou deixar o som me fazer. Palavras soltas, depois de uma vem mais dez outras. Poder sentir cada canção, solta, vai, volta na minha mão. Provar o sabor que dá no próprio dom. A arte é livre, vive, viva. Há mais uma composição honesta. Quem tem a voz tem também que pensar como orquestra. E ser livre pra falar, aprendi. Humilde não é ser burro. Sei que quem não cega na missão toma corcova no bagulho. Hoje eu vou zoar o plantão no baile. Depois vou dar rolê com meu amigo Charlie.
Olhar de folhas naturais. Inspiração de quando quer. Não é qualquer que segura. Uns mete as mãos, mete o pé. Alma de poeta é pura. Deus sabe o grau da tua fé. De noite quando ele procura. Coração tá pra
viver. Sou do teu morro, do meu morro, inventor, no miolo. Se gostar, põe pra rolo, os beat bate, igual tijolo. Olha a boca, eu te falei, sou do sereno. Alguém me chama, já tentei, me separei. Mas vi que a música me ama. Imaginação, minha casa, me dá asa aí. Chega pra somar ou passa. Canta pra subir, larga ideia. No capricho é quem procura boa xepa no Ceasa. Tá fino, Vinícius, ela gosta assim. A gente faz se rima essa catarse. Vou soltar um vilão, qual é? Sem neurose, porque meus heróis morreram de overdose. E sem capital, vi a mais pura. Escassez do lazer, o senso das censuras. Viu os que trabalham, viu os que só fuma. Me dá uma caneta, vou escrever mais uma.
Olhar de umas folhas nas duras. Inspiração de quando quer. Não é qualquer que segura. Uns mete a mão, mete o pé. Alma de poeta é pura. Deus sabe o grau da tua fé. De noite quando ele procura. Coração tá pra viver.
Salut, vous êtes bien avec Adam et Lucas de King Crab.
Tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30, on écoute la Cité Métisse sur Radio Galère, 88.4 FM à Marseille, avec Richard, Defray et Laurent. Au plaisir de vous y retrouver.
Merci Mamen pour le premier son. Donc je répète, on était avec Nadri Brown, qui était en featuring avec Carlos Malta et un artiste qui s'appelle Ramon Zin. Et pour le son, Epedra, single 2025.
Et voici La Roche Perma par Jamine Perrier.
La chronique du professeur Richard là. C'est très métis sur Radio Galère à Marseille. La chronique du professeur Richard là. C'est très métis sur Radio Galère à Marseille.
De l'agitation urbaine, La Roche Perma prend racine à Font-Saint-Denis, dans le nord de la Martinique. Ce jardin expérimental et pédagogique a été créé par Jamine Perrier, fils d'un couple de Rastafari. Ce jeune agriculteur de 24 ans est animé par une passion pour la nature, l'héritage familial et la philosophie rastafarienne dans laquelle il a grandi. Et c'est dans le Zion de Font-Saint-Denis, sur les terres de ses parents, qu'il a décidé, avec son frère, de cultiver autrement en harmonie avec la nature. On l'écoute.
Yo, vous êtes bien avec Fred du Labo Clandestino. J'écoute la radio Cité Métis tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille. Gros big up à Rita, Richard, Defray et Lolo. Au plaisir de vous y retrouver.
Yes, alors ok, je vais vous l'annoncer. Donc on va enchaîner, c'est pas grave les amis, c'est normal, c'est du direct. Avec le deuxième son, donc avec un artiste qui est originaire de Manchester, donc qui est pianiste, producteur et compositeur, Matt Wild a découvert le jazz grâce à un parcours atypique, autodidacte. Il a commencé à composer des morceaux pour ses amis de la scène grime avant de se passionner pour le jazz grâce à ses œuvres riches en samples de Madlib, J Dilla et rien que ça, Pete Rock. Matt s'est alors lancé dans l'improvisation et l'harmonie, créant un son à la croisée du jazz, du hip-hop et de la musique électronique, comme le démontre Time Keepers. Single sorti en 2024. Let's go, DJ.
Vous êtes bien avec Alizé et Capucine des Bayatisha. Nous écoutons la Cité Métisse tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille. Avec Rita, Richard, Defray et Laurent, au plaisir de vous y retrouver en temps et en heure.
C'est pas Yatisha sur Radio Galère.
Yes, donc on était avec Matt Wild, Timekeeper, ça y est, on a retrouvé Jamine, il a pris l'avion direction Martinique, Font-Saint-Denis, il est là, il est parmi nous. C'est à lui maintenant. Let's go.
Peux-tu te présenter?
Bonjour, donc je suis Pierre Yijamin, jeune permaculteur de 24 ans, jeune Martiniquais permaculteur de 24 ans.
Quelle formation as-tu fait pour tes études?
Donc j'ai fait un bac STAV, sciences et technologies de l'agronomie du vivant, et un BTS APV, agronomie production végétale.
T'es venu l'idée de créer la Roche Perma?
Ben la Roche Perma, comme je le précise souvent, c'est une journée type de notre vie depuis petit. Hein. Nous valorisons notre cadre de vie. C'est-à-dire que bon, nous avons eu toujours de bons retours en grandissant. Vous habitez un bon endroit et tout, c'est sympa. Et ma mère a eu l'idée de valoriser le site, hein, le quartier. Et ensuite, ça a mené à créer la Roche Perma quelques années après. Non, c'était pas vraiment prévu. C'est-à-dire que comme je savais pas trop quoi faire à l'école. Et comme j'ai toujours été passionné d'agriculture, de nature, hein, finalement, donc je me suis tourné vers une formation qui se rapproche le plus possible de mon éthique de vie.
Et donc tu as toujours habité à la campagne et tout ça?
Oui, voilà, j'ai toujours habité à Fonds-Saint-Denis, au fond masqué, au niveau du canal des esclaves.
Est-ce facile de monter un tel projet en Martinique?
Ben, il n'y a rien de facile, hein. Y a plusieurs niveaux de difficultés, il y a le mental, le physique, à tous les niveaux, hein, même le relationnel, le social, il faut prendre tout en compte pour pouvoir mener un tel projet, n'importe quel projet d'ailleurs.
Combien d'arbres peut-on découvrir ici?
Donc en arbres fruitiers, ben, il faudrait que je refasse le listing parce que bon, comme je suis un passionné, j'achète des plantes pratiquement tous les jours. Mais je sais que la dernière fois que j'ai compté, j'ai 42 arbres fruitiers différents.
Quelles sont les activités que tu proposes ici?
Donc ce que je propose, c'est une journée bien-être et découverte basée sur trois expériences. C'est-à-dire une expérience agronomique avec la lecture de la nature et la visite guidée. Une expérience de bien-être avec la création du shampoing, l'application et l'application d'un masque d'argile blanc. Et une expérience culinaire avec le petit repas, le déjeuner du midi.
Quel public recherches-tu?
Ben moi, je ne cible pas de public particulier, c'est-à-dire que moi c'est vraiment accessible à tout le monde, grand, petit, homme, femme, personnes âgées, jeunes, il n'y a pas de souci, tout le monde est là pour partager et vivre cette expérience.
Quelle tranche d'âge alors? Parce que je vois que c'est quand même, ça a l'air un peu sportif quand même.
Non, c'est-à-dire que c'est pas une randonnée, c'est pas une marche, c'est vraiment une balade. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un minimum de mobilité. Il y a, par exemple, les personnes à mobilité réduite ne pourront pas participer parce qu'on doit quand même traverser une rivière. Mais la difficulté est vraiment moindre. Hein. Pour citer des exemples, j'ai déjà eu des femmes à terme, hein. Plusieurs femmes à terme, plusieurs personnes âgées de 80 ans. Donc ça va, c'est vraiment la mobilité qui compte.
Quels sont les retours des clients?
Donc ben justement, je pourrais dire que les paroles s'envolent, mais c'est l'écrit qui reste. Et c'est pour ça qu'on a fait le livre d'or. Et effectivement, sous le livre d'or, on a plein de petits messages assez intéressants, assez positifs. Quoi. On fait que du positif, c'est-à-dire que sur Instagram aussi, beaucoup de retours. Franchement, les gens qui suivent l'aventure, ils nous donnent, c'est ça notre moteur, ils nous donnent la force avec leur positivité.
Quels sont tes projets pour l'avenir?
Donc les projets à venir, j'en parle pas trop pour l'instant parce que bon, c'est en voie de développement, je veux pas, je laisse un peu de suspense, mais ça vient, ça vient.
Où peut-on avoir plus d'informations sur la Roche Perma?
Si vous voulez des informations concernant les journées bien-être et découvertes à la Roche Perma, je vous invite à m'envoyer un message sur WhatsApp. Donc au 0696 73 93 97 où vous pouvez suivre ma petite page Instagram où je fais un petit lifestyle, c'est La Roche Perma, donc tous les jours on poste, on a un échange constant avec les abonnés et on vit l'aventure.
Merci beaucoup Jamine.
Merci beaucoup à toi.
Bonjour, je suis Magali Soligna de Macha Prod et j'écoute La Cité Métisse tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille avec Richard Defray et Laurent. Au plaisir de vous y retrouver.
Et on continue, on part à la découverte du festival Cadence Caraïbe, Laurent.
Merci l'ami Richard pour l'intro. Donc, encore merci à toi Gary de faire un petit passage chez nous à la Cité Métisse, puisque c'est une grande première.
Merci pour l'invitation.
Je t'en prie. Alors Gary, comme je le disais tout à l'heure en présentation, tu es engagé auprès de l'association Mamanté. Donc peux-tu nous raconter comment a débuté cette aventure pour toi?
Alors Mamanté, je rencontre Mamanté d'abord en rencontrant Mona Georgelin. Mmh. Parce que en 2017, j'organisais un festival, un événement qui s'appelait Abolisson. autour de la révolte du 22 mai qui a entraîné l'abolition de l'esclavage. Et à l'époque, elle était très engagée dans la mémoire autour des traites et autour des abolitions. Donc c'est comme ça que j'ai eu son contact, on a discuté, on a commencé à se côtoyer à ce moment-là. Et ensuite, elle a participé à l'édition d'après. Mmh. Et ensuite, on a continué à se voir régulièrement. Et ensuite j'avais un groupe de rap à l'époque qui s'appelait Ladja qui a été programmé dans le festival Cadence Caraïbe en 2018. Okay. Et en 2018, il se trouve aussi que je montais une association et que je passais un certificat qui s'appelait le CFGA, le certificat de formation à la gestion associative. Et donc du coup j'étais venu faire un stage en comptabilité à Mamanté. Et il se trouve que les stages en comptabilité, ça a ceci de particulier qu'en fait, ça te met la tête dans les projets. En fait, forcément, quand tu regardes un plan comptable, tu sais c'est quoi les projets. Tu es un petit peu dans l'intimité de la vie associative. Et donc, du coup, à la fin de ce stage, j'ai émis le souhait de rester bénévole pour l'association Mamanté et de continuer à travailler sur le festival Cadence Caraïbes. Jusqu'à maintenant, donc le temps passant, j'ai eu la responsabilité du coup en 2019 de monter une table ronde autour du thème art et émancipation, où l'idée c'était de réunir des artistes noirs autour de la table et de les interroger sur leur rapport à la création et à quel endroit leur condition vient influer sur leur travail artistique. Mmh. Et ensuite, à la suite de cette table ronde, l'idée c'était de ne surtout pas rester sur des tables rondes, parce qu'on connaît un petit peu ce phénomène de table ronde, et c'est des one-shots, en général, il se passe... Ouais. C'est des moments avec beaucoup d'effusion, beaucoup d'idées, et il se passe pas forcément quelque chose derrière. Mmh. Et on a eu envie de, que ça ne s'arrête pas à cette table ronde, et de proposer, en fait, à partir des thèmes évoqués dans la table ronde, de proposer un espace de création à tous les artistes qui étaient autour de la table et qui résident à Marseille. Donc il s'agissait de Marichou Ramonja et de Soli, de B-Vice, de l'association B-Vice.
Okay.
Et donc du coup, les deux ont créé un spectacle qui s'appelle Zanatani. Donc on a eu la responsabilité, l'opportunité et le plaisir d'accompagner dans sa création. Mmh. Spectacle qui tourne encore aujourd'hui de façon autonome. Et donc du coup ça on va dire que c'est la première action à proprement parler, enfin la première responsabilité que j'ai eue à l'égard du festival Cadence Caraïbes, c'est de gérer la logistique autour de ce projet. Et petit à petit du coup on en est là maintenant, quoi.
Ok, alors comme tu on pense à le comprendre justement, donc tu joues un rôle aujourd'hui clé, on va dire, dans l'organisation de ce festival. Donc, comment décrirais-tu l'édition 2025 en quelques mots, s'il te plaît ?
Alors, l'édition 2025 va se dérouler sur une date, celle du 17 mai, du samedi 17 mai, donc la semaine prochaine. Alors, on a le plaisir d'accueillir Clélia Abraham, accompagnée de son quartet. Donc, on a le plaisir de réaccueillir Clélia Abraham. Qui va nous présenter son album Atacama.
Alors, excuse-moi de te couper, parce que tu dis on a le plaisir de la réaccueillir, mais pour ceux qui connaissent
c'est
pas,
c'est ça, parce qu'il y a.
Elle n'était pas venue en tant que soliste ou avec son quartet.
Elle était venue avec le groupe Abraham Réunion, donc oui. C'est le groupe qu'elle a avec sa sœur et son frère.
Ah ouais.
Et formation qui était cette année-là accompagnée d'Arnaud Dolmen, le percussionniste batteur guadeloupéen Arnaud Dolmen. Mmh. Donc voilà, donc c'est la deuxième année qu'on a le plaisir de réaccueillir Clélia.
Ok, super.
Et du coup ce concert, ce sera à 21h et en ouverture à 18h, il y aura une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer autour des migrations, autour de l'histoire des migrations afro-caribéennes sur Marseille. C'est une table ronde qui marque le début d'un projet plus large qui va s'appeler Yo Allé, qui est une sorte de projet de recherche. J'ai découvert le terme cette semaine, donc je me suis dit que j'allais le ressortir. C'est un projet de recherche communautaire.
Et c'est de ton initiative, ça ?
De mon initiative.
Ok.
Voilà, donc en fait le projet Yo Allé, c'est en fait un projet, alors pour la petite histoire, il y a quelques années, à l'époque des confinements, donc j'ai du mal à situer quelles années exactement parce qu'il y a un peu un vortex à cette période-là. Mais du coup, à cette période-là, j'avais mené beaucoup d'entretiens avec, avec des figures afro-caribéennes de Marseille, okay. qui soit s'étaient illustrées autour de la politique, de la culture ou du champ du social. Mmh. Et en fait...
Excuse-moi. Les entretiens que tu avais menés, ils étaient mmh. filmés ou c'était audio pur.
Ah, okay. En fait, l'idée, c'est que j'avais un blog à l'époque. J'avais un blog et je voulais en faire quelque chose dans ce blog.
Ok.
Le temps passant, il y a d'autres choses dans ma vie qui se sont passées. Je fais de la musique, donc mon activité musicale a commencé à un peu plus se développer. Mmh. Mon activité, je fais aussi des ateliers de création avec des jeunes, donc du coup, ça aussi, ça a commencé à se développer, à beaucoup se développer. Mmh. Et donc, du coup, j'ai laissé le blog de côté, mais j'avais toujours ces entretiens qui traînaient sur mon disque dur que j'avais jamais réexploité jusque-là. Je savais pas trop comment en fait je savais pas sous quel angle réattaquer ces entretiens, les exploiter. Et il se trouve que au mois d'octobre novembre je me suis retrouvé au comité Maméga. Donc on peut faire peut-être un petit point après sur qu'est-ce que c'est que le comité Maméga,
qu'on laisse bien nos auditeurs. Vas-y, mais c'est pas grave.
Mais on était au comité Maméga et en fait on était avec parce que en fait pendant que je menais ces entretiens, j'ai eu le plaisir de découvrir qu'en fait, la communauté afro-caribéenne entre les années 60 et 80 sur Marseille, c'est même plus tard, même dans les années 90, s'organisait autour de collectifs et d'associations qui à la fois faisaient office de lieu d'accueil, d'espace d'accueil pour les primo-arrivants afro-caribéens, mais également de lieux de sociabilisation et de lieux de politisation. Et il y en avait énormément à cette époque-là, et tout comme il y avait énormément d'initiatives culturelles autour des cultures afro-caribéennes, moi, ce qui m'avait marqué, c'est de découvrir en fait, le foisonnement d'initiatives et de collectifs qu'il y avait à cette époque-là. Et en fait, on s'est retrouvés vers le mois d'octobre-novembre au comité Maméga, et en fait, avec plusieurs personnes qui avaient connu cette époque-là, et aussi qui avaient participé à la constitution de ces collectifs et de ces associations, et que eux-mêmes se posaient la question de « Ok, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment qu'est-ce qui a entraîné la disparition de ces espaces? Pourquoi ces espaces n'existent plus ?» Et moi, ça m'a beaucoup intéressé, cette réflexion-là, parce que ça m'a aussi donné un nouvel angle autour de ces entretiens, et je me suis dit « Bon, bah, en fait... moi, j'ai déjà ce travail qui est mené. J'ai envie de continuer à le mener et j'ai envie qu'on continue à le mener ensemble en prenant à bras le corps cette question de qu'est-ce qui a entraîné la disparition de ces espaces et de ces collectifs.
Ça fait un lien avec tout ça, quoi.
Avec tout ça.
Avec ce que tu faisais, toi, à la base.
Voilà, c'est ça. Ouais, ça m'a donné une impulsion. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, bon, bah, là, j'ai un angle pour reprendre ce travail-là. Et surtout, en fait, ça m'a donné... envie de continuer en fait à mener ce projet-là de manière un peu plus communautaire, un peu plus intergénérationnelle. Okay. Et en fait, ce qui va se passer à 18h le 17 mai, c'est l'annonce de ce projet que j'ai appelé Yo Allé. Donc Yo Allé en référence à la chanson de Kassav, Moi Allé. Voilà, donc autour de la table, il y aura Josette Bapin et Jean-Marc Ega. Donc c'est très symbolique pour moi de les avoir autour de la table pour raconter cette histoire, parce que c'est vraiment les deux personnes qui m'ont, à l'époque où je faisais ces entretiens, le plus informé, éduqué, et qui m'ont le plus raconté cette histoire-là.
Voilà. Ok, bah parfait. Alors tu parlais justement du quartet de Cléia Abraham, donc qui est, on le répète encore une fois, qui est à l'affiche en fait cette année, mais qu'est-ce qui a motivé justement ce choix de l'invité et qu'est-ce qu'on peut attendre justement lors de son concert?
Alors, qu'est-ce qui a motivé cette invitation? Déjà, une première invitation il y a quelques années qui s'est très bien passée, une rencontre humaine aussi, et un souhait de Clélia Abraham elle-même de qui est revenue vers nous et qui a voulu, qui a exprimé le souhait de revenir présenter son nouveau projet dans le cadre du festival. Ce qu'on peut attendre de ce concert, quelque chose qui est à l'image de ce qu'elle est, de qui elle est, de son identité, c'est-à-dire quelque chose de très jazz, mais quelque chose de très latino, quelque chose de très caribéen, quelque chose de de très métis, j'ai envie de dire. Voilà.
C'est parfait. C'est ce que je voulais entendre. Non, c'est vrai que c'est très empreinte jazzy en fait sa musique, et ce qu'elle fait aussi également avec son frère et sa sœur, quoi.
Ouais, donc, je dirais même, je sais pas si c'est propre à ce qu'elle fait seule, c'est quelque chose que j'ai moins constaté quand Abraham Réunion avait joué à Cadence Caribe, mais j'ai l'impression que son projet à elle est beaucoup plus pop.
Ah bon?
Beaucoup plus.
Tu trouves?
J'ai l'impression. Okay. C'est une impression très personnelle. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus. Mais pop dans le sens pas péjoratif. Hein.
Non, mais j'ai compris ce que tu dis. J'ai compris. Mm-mm. Voilà. Alors les amis, puisque là en fait on entend un peu en sonorité l'ensemble et tout de son album, qui dont le titre et tout est Atacama. Donc ce serait pas mal en fait qu'on vous passe un morceau que je trouve sympathique qui s'appelle Pays. Donc vas-y maman DJ, let's go, envoie-nous ça.
Salut à toutes et à tous. Vous êtes bien avec Seydou Dramé. J'écoute la Cité Métisse avec Richard Defray et Laurent sur la radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille.
Magnifique morceau du quartet et tout de Cléa, donc avec le titre qui est prénommé Pays. Donc Gary, tu succèdes à une autre personne que nous aimons tout particulièrement à la Cité Métisse. Nous avons eu la chance de la recevoir de nombreuses fois sur notre plateau. Je veux bien entendu parler de Mona Georgelin. Donc en quoi ton approche du festival est-elle différente ou complémentaire de la sienne?
Je dirais complémentaire. Et différente aussi, mais complémentaire, surtout complémentaire. Mais en quoi elle change, je dirais que déjà je pense que on n'est pas de la même génération déjà. C'est le premier
départ.
On n'est pas de la même génération, donc on va dire que moi j'ai une sensibilité plus forte dans ce qu'on appelle, pour ce qu'on appelle, et j'aime pas appeler ça comme ça, mais c'est un terme générique et tout le monde va voir de quoi je parle, mais les musiques urbaines. Et
alors, Excuse-moi de te couper, Gary, mais c'est vrai que je... Moi, je te dirai mon ressenti parce que... Et je vais faire exprès de forcer un petit peu le trait. Parce que on se rend compte depuis toutes ces années qu'il y a vraiment une accointance particulière. Tu parlais en fait de jazz créole. Et on se dit, un jeune homme qu'on sait effectivement qui vient de la culture urbaine, peut-être en fait que notre festival Cadence Caraïbe, il va transformer et tout en Chata Dancehall, tu vois, en version 2025. Donc je fais exprès, tu vois, de forcer le trait. Donc est-ce que toi, tu vas rester attaché justement à cette ambiance de jazz créole ?
Je vais rester attaché déjà à quelque chose qui est quand même un marqueur identitaire pour le festival, c'est-à-dire le jazz caribéen. Mais qu'est-ce que le jazz, si ce n'est quelque chose qui est voué à se fondre avec d'autres choses ? Donc, j'ai envie de te dire que la démarche du festival, ça sera toujours le brassage à l'image du jazz, et à l'image de la Caraïbe, et à l'image de nos cultures créoles. Donc non, il n'y aura pas un virage à 180 degrés. Il y aura juste des nouveaux apports, des nouvelles touches, avec quand même un focus important qui fait partie de l'identité du festival sur le jazz caribéen, également sur les formes, traditionnelles, les formes traditionnelles, même si, pourquoi les gens ne voient pas, mais j'ai fait une petite grimace en disant ça, parce qu'en fait, à partir de la tradition. On peut aussi s'éloigner de la tradition. On peut aussi faire beaucoup de choses très innovantes à partir du tambour, à partir des rythmes traditionnels. Donc, qui dit tradition, dit innovation également. Donc, j'ai envie de dire qu'en fait, le festival restera jazz dans le sens démarche jazz. Démarche jazz, c'est-à-dire que le jazz étant une démarche de brassage, le festival restera toujours dans cette démarche de brassage. Effectivement, que moi ça me parle d'amener du chata, d'amener de la dancehall, d'amener toutes sortes de musiques et toutes sortes d'influences. Maintenant, moi je pense que là où peut se situer un festival comme Cadence Caraïbe pour les années à venir, c'est justement de proposer des nouvelles expériences à ces musiques-là, des nouvelles rencontres, peut-être même des rencontres intergénérationnelles. Voilà.
Oui, des musiciens de jazz qui pourraient te jouer, effectivement, après, pourquoi pas, des musiques contemporaines.
C'est ça, ou ben proposer des expériences live
comme l'a fait Sony Troupé, avec XPK et qui a mixé, effectivement, tout ça.
Et pourquoi pas, en fait, à l'avenir, que le festival Cadence Caraïbe puisse être l'endroit de ces expérimentations-là.
Ok. Très bien, Gary. Tu as bien répondu à ma question.
C'était de la musique. C'était de la musique le 17 mai.
Alors. Quels sont justement les défis que vous rencontrez en organisant un événement culturel comme Cadence Caraïbe en 2025 ? Parce que je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns en ce moment.
Alors le défi principal, il est financier.
Ok, c'est clair.
Le défi principal est financier, déjà parce qu'on est une petite structure. On est certes une structure identifiée, mais on est une petite structure. On est une structure qui agit sur des esthétiques qui sont pas les esthétiques les plus financées. On est aussi un festival qui a un propos politique. Donc forcément, quand on a un propos politique, on n'est pas forcément les gens les plus rassurants du monde. Donc je pense que déjà ça c'est des gros défis, faire exister le festival en gardant tous ces marqueurs identitaires là, je dirais que c'est ça le plus gros défi, sachant que tout est toujours lié à l'argent et au fond, parce qu'au final on aurait la liberté d'être tout ce qu'on est tout le temps si on avait tous les moyens de l'être.
Alors justement tu me tailles une perche pour la question suivante, c'est comment peut-on justement après, alors peut-être pas de manière forcément financière, comment peut-on soutenir Mamanté ou s'impliquer dans le festival ? Même en tant que simple curieux ou passionné.
Venir, acheter sa place, communiquer là-dessus. On a un festival qui fonctionne sur une petite économie, donc en fait, il n'y a pas de petite contribution. Juste parler du festival à ses voisins, à ses amis, à ses collègues de travail, c'est déjà une contribution forte. Donc voilà, parler du festival, sachant qu'on est un festival qualitatif, donc on mérite qu'on parle de nous. Voilà. Si j'ai envie de dire que c'est ça, c'est plus si on veut nous aider, c'est acheter sa place et parler de nous.
Et enfin, Gary, j'aurais une dernière question pour toi. Donc, quel message aimerais-tu adresser à nos auditrices et nos auditeurs pour leur donner envie de venir au festival le samedi 17 mai à la Cité de la Musique?
Alors, c'est un festival... Tout le monde vous le dira quand les gens parleront de leurs événements et tout le monde vous dira la même chose, mais nous c'est très particulier, on est un festival très convivial, très familial. On a la chance, et moi depuis que je travaille sur ce festival, depuis 2018, j'ai la chance de revoir souvent les mêmes têtes. Et en général, quand on revoit souvent les mêmes têtes qui reviennent à un festival, c'est qu'ils y trouvent quelque chose de rassurant, de chaleureux. Un peu comme quand on revoit les mêmes têtes dans un restaurant, dans un bar, ben en fait là dans ce festival on revoit souvent les mêmes personnes. Les artistes ont très souvent envie de revenir parce qu'ils sont très satisfaits à la fois de l'accueil qu'on leur fait, et en général quand des artistes sont satisfaits de l'accueil qu'on leur fait, ils le rendent sur scène. Et donc le premier bénéficiaire en général ça va être le public. Voilà, j'ai envie de dire que c'est la convivialité, l'aspect familial, et puis aussi on est un festival qui existe sans concession. Voilà, malgré les difficultés, malgré tout, on reste un festival qui existe sans concession.
Bien sûr. Alors on le répète encore une fois, donc ce sera le samedi 17 mai à la Cité de la Musique, et on attaquera avec une table ronde à 18h, mais ceux qui veulent venir au concert directement de Clélia, c'est à 21h, c'est bien ça?
Exactement. Réserver sa place, c'est fortement conseillé parce que la jauge n'est pas très grande.
Sur
le site de la Cité de la Musique.
Okay.
Sur le site de la Cité de la Musique.
Ou même sur le site
de Cadence Caraïbes. Il y a un lien. Il y a un lien sur le site de Cadence Caraïbes également.
On le rappellera à la fin.
On le rappellera. Et donc voilà, on peut donc acheter sa place pour 21h et la table ronde de 18h est gratuite.
Super. Merci infiniment, Gary.
Merci à vous.
Bon, les amis, on va enchaîner avec une autre pause musicale. Donc avec un groupe que j'aime tout particulièrement, un groupe de la Guadeloupe, qui s'appelle Music Art. Donc c'est l'âme musicale de la Guadeloupe qui bat au rythme du tambour, des mots vrais et des vibes enflammées. Donc ils sont forts, fiers et authentiques. En ce mois de mai, mois des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, nous souhaitions mettre à l'honneur ce collectif qui est bien plus qu'un groupe de musique. Il incarne à lui tout seul toutes les facettes de la culture guadeloupéenne, composée de Ivy au chant et à la peinture, Laurie au chant et à la poésie, Teddy Gaspaldi à la guitare, Pierre-Henri Debré aux percussions. Et derrière cette énergie collective, bien entendu, un chef d'orchestre, un véritable pilier dans l'ordre, artisan de la vision et du rayonnement du groupe, j'ai nommé Monsieur Jean Chevry. Voici leur tout dernier titre, Limé Limé Bayo.
Yuteka vivre en harmonie, qu'on roche en rivière. Yuteka chasser et manger, tout ça ici la terre. Mais mon sang qu'est débaqué, bayo pour nos sauvages. Prends tout ça yote ni et fais le ravage. Limé lumière bayo.
Limé.
Limé lumière bayo.
Limé.
Limé lumière bayo. Pousser grand maman nous, papa nous, Kalinago.
Yon rive en calabato yon silo. Pousser vie esclave, basse moun sans qu'elle a.
Sans qu'elle a.
Via yo, pateta yo encore, yo voyon l'eau misère. Et yo fin pas choué, yon loa dans yo. Limé, limé, bayo.
Limé.
Limé, limé, bayo.
Limé.
Limé, limé, bayo. C'est grand maman nous, papa nous, africains.
Salut, c'est Marie-Lou Gérard de Tifol. Tous les premiers lundis du mois, de 20h à 21h30, j'écoute la Cité Métis sur Radio Galère. À Marseille, 88.4 sur la bande FM avec Richard, Defray et Laurent. On se retrouve sur Radio Galère.
Quatre âmes, une fréquence, la cité métisse, là où chaque voix se mêle.
Merci Mamène, nous étions avec le groupe de la Guadeloupe Music Art, Limé, Limier, Bayo.
À présent, partons à la découverte de l'univers cinématographique de Lasco et Abdoul.
Alors les amis, ce soir je suis tout particulièrement content de recevoir l'ami Abdoul et Lasco en même temps, parce que ça a été un peu une bataille. Je dois vous l'avouer.
Comment ça, une bataille? C'est à cause d'Abdoul. Abdoul, il
parce
est vraiment
que ces
dur
messieurs,
à gérer, quoi.
Ces messieurs, ils ont un planning très, très, très chargé. Donc, du coup, les avoir en même temps sur le plateau, c'est magnifique, magnifique.
Bah, voilà, il fallait être patient.
Mais nous l'avons été.
C'est une patience, le cinéma, mon cher ami.
Je sais. Quand je te vois faire toutes tes interviews et tout, je me dis, mais quelle patience voilà, il a, cet Abdoul.
Après 7 ans de réflexion.
C'est voilà, ça, c'est ça,
est,
c'est ça.
On y est.
Ah, c'est cool. Comme le 7ème art.
Absolument.
Alors, on va commencer par Nico. Alors, Nico, ton parcours, Lasco, pardon.
Ouais.
Ton parcours.
Nico pour les intimes.
Pour les intimes. Est riche et multiforme. Donc, elle a été le moment déclencheur qui t'a fait choisir l'audiovisuel comme moyen d'expression principal.
Waouh. Bah, en fait, je crois que c'était quand j'étais jeune, déjà, j'ai commencé à jouer d'un instrument. Du piano, je voulais, tu sais, à l'époque j'écoutais Jean-Michel Jarre,
okay.
Et je voulais faire du synthé comme lui, je voulais tout de suite dans l'électro, et après j'ai eu ma première chaîne IFI, j'ai eu les cassettes, j'ai commencé à m'enregistrer, tu sais, à commencer à bidouiller un peu le multipiste, etc. Et après, j'ai fait de la radio au collège,
décidément.
Radio Col, donc j'étais animateur radio, j'avais mon émission rap à l'époque,
wow.
qui s'appelait New Jack, et je passais beaucoup de rap américain, parce que dans les années 90 c'était, ouais. c'était très américain, ouais, US. Mais je passais aussi du rap français, et c'était du bon rap, hein. À l'époque c'était Assassin, ouais. c'était assez virulent, on va dire.
Bah ouais.
Et il y avait engagé, ouais. Ouais, il y avait Kerry James, la Funky Family, etc. Ouais.
Okay.
Donc, du coup, ça m'a tout de suite. Bah voilà, j'étais un peu dans l'univers de la radio, ça m'a tout de suite excité.
Mais le premier attrait, c'est quand même la musique.
Ouais, la musique qui m'a emmené dans la radio, et la radio, après, j'ai dit, bah, on peut faire un BTS audiovisuel pour aller dans la télévision, dans le monde de l'audiovisuel, etc. Et j'ai eu un BTS audiovisuel qui m'a permis. De commencer un peu à travailler dans le monde de la télévision, okay. Sur Paris. Et avant de commencer à travailler, j'ai fait mon service militaire à l'ECPA. C'est l'établissement cinématographique et de l'armée.
Ouais.
Donc après, j'ai fait mes premières piges à Paris. Donc j'ai fait un truc de ouf, parce que j'ai participé aux premiers enregistrements d'êtres humains, c'est-à-dire filmer. Tu sais, la télé-réalité.
Ah oui, justement, quand tu m'as dit ça, je pensais à ça.
Ouais, à l'époque, il y avait Big Brothers dans les années 2000 qui cartonnait au States.
Avant le Loft, alors.
Avant Love Story, avant Star Academy. En fait, TF1 et M6, ils avaient créé une chaîne qui s'appelait TF6. Et c'était une chaîne dans le câble, et ils ont dit, tiens, ça cartonne aux États-Unis, ouais. Big Brothers, on va essayer d'amener le concept de la télé-réalité. Mm-hmm. Et donc du coup, moi j'ai bossé là-dedans, donc du coup je filmais, j'avais des caméras robots, je devais faire des montages, et puis j'avais un micro, je pouvais parler aux candidats qui étaient enfermés. C'était assez bizarre, quoi, tu vois.
Ouais,
mais bon, c'était mon job et tout, hein. Moi c'était mes piges, je prenais, quoi.
Okay.
Je réfléchissais pas, et je trouvais ça très novateur, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais c'était Van de King, le producteur, c'était quand même le big producteur de Paris qui organisait ça.
Ouais, ouais.
C'était celui qui faisait la grande famille sur Canal+. Donc,
mais comment t'en es arrivé là, toi? Par contact?
Ouais, par relation, contact, ouais. C'est quand j'ai fait l'armée, en fait. Quand j'ai fait l'armée, en fait, l'armée, c'est un gros réseau, ça te pistonne tout de suite sur Paris, quoi. Et du coup, bah, ça a fonctionné. Et après, TF1 a fait Starac et M6 a fait Love Story. Donc après, on m'a proposé de bosser sur Love Story, mais j'étais un peu cuit, quoi, parce qu'un an à Paris non-stop, c'est fatigant, Paris, quoi, tu vois. Donc je suis redescendu dans le Jura, chez moi. Et après, du coup, ouais. Je suis atterri à Marseille parce que j'avais un poste CDI
okay.
dans une grosse agence marseillaise qui s'appelait Offshore. Et malheureusement, je suis pas bien tombé, quoi. J'ai dû démissionner. C'était un peu une ambiance un peu mafieuse, quoi, tu vois.
Ah, mais...
Donc.
Marseille. Ouais. D'entrée, tu t'es mis dans le bain.
En fait, ça se passait bien, Welcome. Mais ces gens-là, ils avaient des problèmes avec la justice. J'étais pas trop au courant.
Ouais. J'espère qu'ils n'écoutent pas Radio Galère. Ouais.
Non, mais bon, quand même. Non,
il
mais...
a trop fait de pubs, t'es obligé qu'ils écoutent.
Non, mais ça s'est quand même bien passé. J'ai eu aucun problème avec ces gens-là.
Non, mais nous aussi, voilà. On n'a pas avoir de problème là, ce quoi. Je te dis dessus jusqu'à présent, ça se passait bien. Là, beaucoup...
Non, mais je crois qu'ils sont tous en prison. Donc,
d'accord.
Ouf, on est sauvés. Je voulais aller jusqu'à la 70.
Et donc, ensuite, après, il y a quelqu'un qui m'a repéré. J'ai commencé à piger un peu à France 3, j'ai pigé au Vélodrome, je faisais les installs des caméras pour les matchs de foot, j'ai fait un peu de montage, un peu de directeur de casting pour la Nouvelle Star, voilà, c'était très éclectique quand t'es intermittent ouais. de spectacle, ça te permet de toucher un peu à plein de choses, ouais, etc., d'avoir plein de postes de travail. Okay. Et puis là, donc à France 3, j'étais plutôt technicien vidéo à faire la réalisation du JT. Mmh. Et avec le numérique qui est arrivé très très vite, moi, en parallèle, je faisais beaucoup de clips, d'expériences. J'étais très à cheval sur la nouvelle écriture numérique. Ouais, je tentais beaucoup d'expériences. Et donc, quand France Télé a voulu mettre en place un peu justement sa cellule numérique, uh-huh. du coup, c'est là que je me suis proposé. Et c'est Anne-Sophie Maxime, d'ailleurs, et Béatrice Nivois qui m'ont détecté à France Télé, qui m'ont orienté un petit peu sur un profil numérique, donc en tant que créateur de contenu.
Ah, ok, voilà, j'ai été sur ça.
Et là, maintenant, du coup, je suis arrivé à un stade où c'est que maintenant je suis producteur artistique global, c'est-à-dire antenne, c'est-à-dire je peux. À la fois travailler pour la télévision, des émissions, et à la fois développer des concepts web, etc. Voilà à peu
génial,
près
génial.
Où c'est qu'on en est. Et en parallèle de ça,
beau résumé.
Et en parallèle de ça, en ce moment, je suis en train de réaliser mon deuxième film, un documentaire sur le.
Si ça te dérange pas, cher ami, ouais. Tu me laisses mes questions en fait qui arrivent.
Ah d'accord, ok.
Sinon,
non, moi je te disais un petit
pose
peu
une
tout
question
là.
Et tu me fais les 15 ans.
J'étais chaud, c'est parti.
On a fait finir l'émission. Non, je plaisante. On reviendra à toi après, juste après. Alors Abdoul.
Ah.
Eh oui, c'est forcément, c'est à toi. Eh oui, il faut que
c'est
tu sortes de la
étage.
Ah ouais, tu as vu un peu, il a pris toute l'émission là du coup. Alors Abdoul, lors de la préparation de l'émission, tu m'as confié que tu étais un fan de cinéma presque depuis le berceau de ta tendre enfance.
Ah oui.
Tu te souviens de ton tout premier film qui t'a bouleversé, Abdoul.
Mon tout premier film, c'est un western qui s'appelle Duel au soleil de King Vidor. Il date de 1946, l'âge de mon père.
Ok.
Et je me rappelle, je l'avais vu, je comprenais rien. Hein, à 10 ans, tu comprends pas l'histoire, quoi, tu vois. Mais plus tard, je l'ai vu et je sais qu'il y avait une sublime actrice. Et on tombe toujours amoureux d'une actrice au cinéma. Aussi, le cinéma, c'est ça, quoi. C'est magique.
J'ai l'impression que tu tombes souvent amoureux, toi.
Ouais. J'aime bien les actrices.
Surtout quand elles sont blondes, non.
Bah non, c'est pas. Mais non. Non,
Scarlett Johansson.
Ah, écoute, tu mets des postes, Abdoul, c'est bon.
Non, mais de
Virginie
tout.
Virginie Fira.
Je fais pas de distinction, moi.
Si, Virginie Fira.
Plus les blondes.
Oui, mais Virginie, parce que c'était une actrice que je rêvais d'interviewer. Bah, j'ai eu de la chance, on s'est rencontrés à Cannes, en plus par accident, tu vois. C'est vraiment. Moi, j'étais allé pour voir Scarlett Johansson, justement, parce qu'avec Nico, on couvrait le Festival de Cannes il y a 2 ans.
Okay.
Enfin, comme chaque année, là, maintenant. Mm-hmm. Et du coup, moi, on m'avait dit d'aller voir l'équipe d'Asteroid City du film de Wes Anderson. Alors moi, j'y vais. Nico, il me demande, fais tous les hôtels. Et j'arrive, au bon hôtel, tu vois.
Ouais.
Et j'arrive à l'accueil. Et je leur dis, mais ils sont où, la chambre de Asteroid City? Parce que, tu sais, Wes Anderson, il y a plein d'acteurs, lui. C'est vraiment un groupe d'acteurs. Et les films, c'est la chambre 250. Elle lui dit, vous voulez y aller? Je dis, non, je vais pas y aller. J'ai fait le mec, genre, je suis pas pressé et tout.
Tranquille, quoi.
Je tchatche avec elle, et je dis, ouais, je bosse pour France 3 pour le festival, quoi. Et tout d'un coup, l'une d'elles qui me sort, il y a Virginie Efira derrière toi. Alors là, tu sais, moi, je deviens ouf, quoi.
Le palpitant.
Mode syncope et tout. Et je te jure, je te promets, elle était avec Valérie Donzelli, que je connais, c'est une réalisatrice. Et là, je reviens, y a Valérie qui me reconnaît, qui me dit, ça va, Abdoul et tout, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je suis là pour France 3. Et On descend l'escalator. Elle me dit, oh, je te présente Virginie Fira. Je dis, oh, ça va quand même. Je connais Virginie Fira.
Il est trop fort.
Bah oui. Attends, elle me donne. En plus, elle avait un bidon comme ça. Elle était enceinte. Vas-y. Et là, elle me fait un compliment. Attendez.
Ouais. Qu'est-ce elle, que t'as dit?
Parce que j'étais en combi.
Ouais, bleu.
Bleu, ouais. Ah ouais, parce que magique. Moi, j'ai mon style. Hein.
Très vintage.
Je prends le combi ou bien je mets des salopettes et tout. Elle me dit, putain, mais là.
Et tu roules en 103 SP, non?
Ouais, non, en Ciao.
Pardon,
c'est une italienne. Et là, elle me dit, putain, mais il est vraiment sexy, ce mec. Putain, je failli tomber, quoi. Tu vois, c'est énorme.
Oh, je comprends pourquoi il est là. Non, mais
il se fait des films. Non, mais je dis ça. Et en plus,
il était petit, lui.
Et en plus, et là, j'ai dû aller un petit selfie. Et figurez-vous, comme quoi, hein, c'est ouf. C'est par, il faut savoir que c'est son anniversaire aujourd'hui.
Ah, c'est pour alors, ça que t'as posté.
C'est pour ça que t'as posté. Okay. Alors, tous ensemble, joyeux anniversaire.
Happy birthday to you,
Virginie. Voilà, bah, si elle nous écoute, écoute, voilà, en plein Radio Galère. L'audience est venue.
Il marche au moins le record de sort ou pas?
Ah, il a fond.
Voilà, ouais.
Il est au taquet. Anecdote sur anecdote, on veut tout.
Non, mais c'est vrai. C'est
Waouh.
Voilà.
Ah ben, magnifique. Merci pour ta magnifique réponse. Mais.
On n'attendait pas tout ça.
C'est des punchlines ici, ça rigole
ah,
pas.
Ah, de ouf. Et encore, c'est pas fini.
C'est ouf.
Alors, ouais. On revient, et toi, à l'ami Lasco. Donc, tu as porté plusieurs casquettes, forcément, dans le milieu, parce que tu l'as dit un peu, tu es un peu le couteau suisse à France 3. Alors, moi maintenant, parce que. Enfin, bref. Tu es réalisateur, producteur, artiste. Donc, laquelle te révèle le plus pleinement à l'heure actuelle?
À l'heure actuelle?
Ouais.
Ce serait plus réalisateur. Okay. De films documentaires, car j'ai appris un peu l'écriture.
Okay.
C'est-à-dire que c'était quelque chose que je pratiquais pas. Et en fait, l'écriture, c'est quelque chose de puissant qui m'a vraiment donné des ailes pour faire déjà mon premier film. Parce qu'il fallait l'écrire. Et je l'avais co-écrit avec mon co-réalisateur, Florent Mongeau, que je salue. Et ma productrice Muriel Sorbeau des Tambours de Soie qui m'accompagne encore sur ce deuxième film. Premier film, c'était donc Que vive la nuit.
Okay.
Comment et pourquoi on fait la fête aujourd'hui à Marseille. Et c'était la suite de ma web série que j'avais tentée en bénévole et en mode solidaire surtout. Pendant le Covid, j'avais tiré 20 portraits de Marseillais et Marseillaises qui étaient sur le carré, le carreau, quoi, hein, en fait. Les gens qui ne pouvaient plus travailler la nuit. Et on voyait bien que pendant le Covid, il y avait deux salles, deux ambiances, quoi. Ouais, c'était ceux qui travaillaient le jour, ben eux, ça pouvait, enfin il y avait les stop and go, donc ça reprenait. Sauf que tu te rappelles qu'il y avait bien ces couvre-feux à 18h, à 20h, à 22h, ça changeait tout le temps. Mais alors du coup, ces couvre-feux, la vie s'arrêtait à ce moment-là. Donc tout l'économie, toutes les professions de la nuit s'arrêtaient. Et pourtant, ça continuait le jour. Tu vois, t'avais les médias, tout le monde parlait du jour. Personne parlait de la nuit.
Ouais, c'est vrai.
Ça faisait des gros dégâts. Donc, les discothèques, les salles de concert, t'imagines, tous les restaurateurs. Donc, du coup, je suis allé les voir par solidarité parce que autour de moi, je voyais des actes solidaires. Je voyais des gens qui faisaient des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Pendant le Covid, en fait, il y a eu une révélation. Les gens se sont posés des questions. Bah fais quoi? Je change de travail? Je vais aider quelqu'un? Et moi, je voyais ça et je me suis dit, ouais, surtout, j'ai envie de faire un acte. Donc moi, je suis pas un bricoleur, tu vois. Moi, je bricole avec une caméra, avec ma petite station de montage. Et je me suis dit, je vais aller donner la parole aux gens qui sont bloqués.
Ouais.
Et je vais faire un montage pour leur donner un peu la force, quoi, tu vois, pour leur dire qu'ils existent, leurs problématiques. Et cette web série, elle a un super écho, quoi. Elle a été prise au festival de Marseille, le Mars Webfest.
Ah oui.
Et
oui,
du coup, c'est ça qui m'a boosté un peu, parce que j'ai rencontré des producteurs qui m'ont dit, mais ouais, nous, on veut la suite. Et du coup, après, je suis parti sur l'écriture. J'ai rencontré ma productrice et on est parti sur l'écriture pour raconter la nuit d'aujourd'hui.
Génial.
Donc, je vous invite à découvrir ce doc.
Tout à fait.
Mais faut me
suivre. Il était sur la plateforme de France.
Il y a quelques semaines. Là, il a disparu.
Bah, il reste un bon moment quand même.
Ouais, et donc du coup, il faut me suivre sur les réseaux parce qu'il va ressurgir un jour en festival ou quelque part d'autre et je vous mettrai le lien.
Bien sûr. Alors, cher ami Abdoul, toujours, je vais pas te lâcher. Hein. Alors, puisque tu es là ce soir, qu'est-ce que le cinéma t'a apporté humainement et émotionnellement, pardon? que rien d'autre en fait n'aurait pu t'apporter.
Oula, déjà la joie, parce que le cinéma c'est quand même la joie, bien sûr. Il y a aussi la déception, parce que c'est ça aussi, quoi. Il y a le côté drame, il y a le côté comique, il y a le côté réflexion, parce que pour moi le cinéma c'est la vie. Voilà. Voilà. C'est pour en revenir, je considère le cinéma. Parce que c'est des scénarios, on est d'accord.
Bien sûr.
Voilà, c'est le suspense. Moi, je sais pas, moi, l'autre jour, je suis allé. J'ai failli louper mon train, je speedais, je flippais. C'est très Hitchcockien. Hitchcock te faisait flipper comme ça et t'arrives à la gare. Ah bah finalement, il y a 20 minutes de retard. Alors que dans ta tête, t'étais là, tu dis bon, de toute façon, c'est mort. Mais tu tentes. Bah, c'est ça le cinéma aussi. On tente. Il faut oser. Voilà, c'est un cinéma osé. Et j'aime le cinéma osé, quoi.
Ok. Ouais. Alors justement, parmi tous ces films que tu dois chérir depuis toutes ces années, depuis ta tendre enfance, est-ce qu'il y a un film que tu revois en fait en permanence comme un film un peu doudou, quoi, tu vois, qui permet de te rassurer, qui permet de que tu as vu des dizaines et dizaines de fois?
Il y en a plusieurs, mais je vais choisir Psychose. Psychose, ouais, de Hitchcock.
Ah ouais.
C'est une doudou.
Ouais. C'est... Non, c'est pas que c'est une doudou, c'est que.
Non, moi je dis doudou parce que tu as bien compris ce que ça voulait dire. Nous, on est aux Antilles là. Donc...
Non.
Forcément, il y a une doudou quelque part.
Non, c'est un des films que je regarde régulièrement, et Star Wars aussi, parce que je suis.
Ah, c'est pour ça que je me disais en voyant ton t-shirt.
J'aime bien. Après, en cinéma, entre guillemets, parce que Star Wars, ça reste quand même c'est du divertissement.
Bien sûr.
Tu vois, ils appellent ça le soap opéra. Okay. C'est pas de la science-fiction pure en lui-même, quoi. C'est du divertissement. Quand Lucas, il a sorti Star Wars, en gros, il s'est inspiré d'un film qui s'appelle La forteresse cachée de Kurosawa. Où t'as une princesse qui est à l'intérieur et un gars assez vieux et petit, c'est les deux DR2 plus tard, quoi, les deux robots.
Okay.
Et il s'est inspiré de ce chef-d'œuvre de Kurosawa qui est sorti en 53. Et tu vois plein de batailles. Bon, t'as pas les sabres laser, quoi.
Bien sûr.
Et là, à partir de là, il a fait ça, quoi, cette saga-là. Okay. Au départ, en gros, il s'est dit, bon, je vais mettre ça, Dark Vador, tous ces trucs-là. Ils ont bien pas sûr. Adhéré, les gens. Et après, c'est devenu culte petit à petit. Mais pour en revenir à ta question, Psychose, j'aime bien parce que c'est un film que je connais par cœur. Tu peux me mettre n'importe quel plan et je vais le reconnaître.
Ouais, tu l'as vu des fois.
Non, mais c'est pas le fait de l'avoir vu plusieurs fois. C'est que t'as des plans qui te marquent.
D'accord.
Et surtout le grain du film. C'est un noir et blanc qui est hallucinant. L'histoire, elle est incroyable. Très Hitchcockienne. T'as Marion Crane qui est jouée par Janet Leigh. C'est la maman de Jimmy Lee Curtis.
Ok.
Tu vous suivez un peu là dans...
Ah ouais, on son a du mal,
père,
mais on.
Voilà. Et son père, c'est Jimmy Lee Curtis et Tony Curtis.
Oui.
Et bon, bref. Et Marion, elle bosse dans une banque. Enfin, dans une boîte d'assurance. Et il y a un richissime qui arrive voir son patron qui lui demande de garder l'argent. Et Marion, elle a des problèmes au niveau financier, elle s'en sort pas, quoi.
Okay.
Du coup, son patron lui demande, est-ce que tu peux aller déposer l'argent, c'est le week-end. Elle a le prétexte, elle dit, oh, moi j'ai mal à la tête, j'ai envie de rentrer et tout chez moi. Bon, elle prend sa journée. Arrivée chez elle, elle prend l'argent et là, elle regarde l'argent, tu vois, tu sais comment ça lui tourner. Là. Et là, elle prend sa bagnole, elle se casse, c'est le week-end. Et arrivée au feu, elle tombe sur son patron. Parce que son patron, lui, dans sa tête, Marion, elle était chez elle. Parce que soi-disant, elle était malade, tu vois. Et là, prise de panique, elle avance. Mais lui, il a un doute, parce qu'il voit que c'est Marion, mais dans sa tête, parce qu'il y a une voix qui lui parle en même temps. Et ça, c'est très Hitchcockien. Et elle se barre. Et là, elle rencontre un flic qui la suit. Il faut savoir que Hitchcock déteste les flics. Toujours, ils ont toujours un mauvais rôle. Parce que quand il était petit, en Angleterre, et comme c'était un enfant qui était complètement... chiant, il faisait tout le temps des bêtises, quoi.
Ouais.
Et son père lui a donné une lettre pour qu'il aille au commissariat. Arrivé au commissariat, dans cette lettre, le policier lit « gardez mon fils derrière les barreaux, parce qu'il est hyper chiant, quoi. » Et tu vois, toujours, les flics dans les films d'Hitchcock, ils sont cons, ou bien ils n'ont aucune valeur pour lui, quoi. Ils se vengent.
Ouais.
Et pour en revenir à Marion, du coup, elle avance, panique, le flic, il s'en va, il la laisse tranquille. Et là, elle arrive au motel Bates, qui va rencontrer Norman Bates, et vous verrez la suite.
Ok.
Voilà, en gros, si vous avez vu Psychose... Hein ? Clair. Non, parce qu'en plus, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y a une autre anecdote sur Psychose. En gros, on sait comment ça se termine, comme un livre, bravo. Et en gros, Hitchcock...
Ouais.
Il apparaissait sur l'écran.
Dans tous ces films.
Il apparaissait avant le début du film.
Okay.
Ah oui,
il apparaissait pour dire, alors c'est simple,
pour annoncer.
Allez voir Psychose, mais dites okay. À vos amis de ne rien raconter, quoi.
Oui, tu vois, voilà, venez juste.
Et les journalistes américains, ils ont dit putain, ça c'est de la, c'est du marketing.
Okay.
Alors ils se sont dit, ah ouais, il dit, si jamais la reine d'Angleterre ou n'importe qui veut rentrer, vous interdisez l'entrée à la personne, quoi. Alors les journalistes se sont dit, bon bah on va aller avec une femme qui est enceinte. Elle arrive devant le guichetier, et le guichetier lui dit, ouais, on est en retard et tout, on peut rentrer, j'ai ma femme. Eh ben écoutez, il y a une chaise là, qu'elle s'assoit, elle va venir à la prochaine séance, quoi. Tu vois, c'est trop drôle, tu vois, le concept.
Ok. Ouais. Alors, cher ami, on va faire une petite pause parce qu'on est, y a notre ami Lasco qui est venu avec toute une playlist. Donc après, on vous expliquera bien sûr d'où ça vient. Donc là, on va écouter un artiste qui s'appelle Telam avec un son qui dont le titre est Halloween.
Halloween.
Non, c'est Halloween là tout court. Let's go, frérot.
Écoutez bien ça.
Yes.
J'allais mourir hier.
Moi aussi.
Mais j'ai vu ce que je sentais. Je te raconte pas, c'était pas fou. Mais fallait bien qu'on tranche et partir à l'assaut. Va plus loin de mes souvenirs. Toi t'étais pas là. Je vois le jour de temps en temps. Mais c'est plus comme avant. Fallait toi recommencer. Avant que les feuilles tombent. Te recommencer. Avant que les feuilles tombent. Je retourne la partie. Je me prépare à partir. Tout paraît étrange. Si tu comprends, t'es pas le seul à voir le miroir quand t'es stone. Dans la tête, peuvent essayer, ils arriveront pas. Je serai devant l'ordinateur. Si jamais tu cherches à me joindre, tu peux penser au suite. T'as pas assez d'humilité. Oh, essaie pas de me diminuer. Finition, moi, même quand je suis tout seul en bas, y'a toujours quelque chose qui me parle. Ça tombera quand ça va, j'y pense de temps en temps. J'suis resté sous la pluie à penser toute la nuit à comment vesquer un tsunami. J'ai pas compris c'était quoi, j'ai déployé les ailes, non. J'suis pas redescendu encore mais je le ferai cette fois. J'ai fait le tour de la maison, j'ai pas trouvé c'était qui. J'suis trop tombé dans les ronces pour avoir peur des épines.
Bonjour, vous êtes bien avec Issa Naïmo. J'écoute la Cité Métisse tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère 88.4 sur la bande FM de Marseille avec Rita, Richard, Defray et Laurent. À bientôt, plaisir de vous y trouver.
Super maman, donc c'était Telam avec Halloween. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Lasco, sur ce jeune homme?
Eh ben c'est un rappeur qui vient de Perpignan. Okay. Et du coup ben, il fait partie de mon deuxième film, ce qui va être sur le rap émergent.
Okay.
Qui pour l'instant le titre s'appelle Du stream à la scène. Alors, je ne sais pas encore si c'est le titre officiel, définitif. Mais pour l'instant, on part un peu sur cette piste. Parce qu'en fait, je suis des rappeurs et rappeuses émergents, émergentes. Et il faut savoir que ces artistes, ils commencent des fois depuis leur chambre.
Oui. Ouais,
et ensuite, il y a la phase scène. Et là, c'est quelque chose, c'est presque comme un autre métier, en fait. La création en studio et... Et comment être sur scène, c'est deux ambiances, quoi. Okay. Donc ils sont en mode accompagnement dans ce film avec Planète Mars, que je salue, Baptiste et Clémence, qui organisent ce tremplin chaque année. Et voilà, donc du coup, moi j'ai suivi un petit peu ses talents et Telam qui a un style vraiment intéressant parce qu'il est il explore un peu toutes les variances de la musique, hein, parce qu'il ne fait pas juste du beat rap, quoi. Des fois, il part en électro, etc. Okay. Donc, c'est le rap d'aujourd'hui, en fait, il s'est vachement ouvert, quoi. Il y a plein de styles différents.
Et qu'est-ce qui t'a amené, justement, à démarrer un film justement là-dessus. C'est quoi le lien, c'est quoi la genèse en fait de tout ça?
Bah, la genèse, c'est
quand j'étais ta passion.
Bah, quand j'étais au collège, je t'ai dit, je faisais de la radio, j'avais mon émission de rap. Ouais. J'aimais le rap, j'ai écouté le rap. Moi, j'ai NTM, donc
c'est ton amour
NTM,
pour le rap,
IAM,
ouais, ton amour pour le rap.
Ouais, mon amour pour le rap. Et puis après, à Marseille, je suis Marseille d'adoption. Tu vois, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis là. Okay. Et c'est quand même la capitale du rap, quoi. C'est quand même. Enfin, il y a Paris, mais pour moi, Marseille, c'est vraiment quand même une ville où il y a des grosses révélations rap, quoi.
T'es devenu vraiment Marseillais du coup.
Voilà.
T'es vraiment chauvin comme eux quoi.
Ouais. Et donc du coup j'ai toujours voulu faire un clip de rap ou faire quelque chose pour le rap. Okay. Et ben du coup avec ces pépites, ces nouveaux talents, ce rap émergent, je trouve que c'est intéressant de comprendre un peu la jeunesse d'aujourd'hui, avec quels outils elles avancent et comment on peut les écouter dans leur production. Voilà.
Alors moi, si je peux me permettre, parce que j'ai vu tes documentaires et je vois en fait comment tu essaies d'aborder justement en fait celui-là à travers tous les échanges et tout qu'on a eu. Tu as une vision et tout qui est bien particulière justement de tout ce qui tourne un petit peu autour de la ville. Que veux-tu que le public en fait y retienne justement de cette vision-là ?
En fait, Marseille, c'est une ville un peu punk, un peu. Voilà, il y a du bon, il y a du bien et tout, mais c'est une ville justement qui a des très très belles couleurs et c'est un super terrain de jeu pour nous les réalisateurs ou tu vois, les photographes ou les gens qui veulent du graphisme ou une ambiance et tout. Il y a vraiment des ambiances différentes et il y a beaucoup de belles rencontres à faire parce que c'est très cosmopolite, donc du coup les couleurs se mélangent et donc ça inspire Marseille, ça inspire les créateurs, ça inspire les artistes. Et donc moi j'ai ma vision de Marseille et j'essaye de donner ce que je kiffe, les sensations, j'essaye de les recréer, la construction du réel, de remettre ça en place avec ma vision.
Alors les amis, bien entendu, pour que les gens comprennent, il y a un lien forcément entre vous deux par rapport à la fameuse émission du célèbre Abdoul fait son cinéma.
Ouais.
Puisque c'est, si je ne me trompe pas, c'est bien notre ami Lasco qui a l'origine du concept ou c'est lui qui est derrière la caméra, qui te filme. Vous avez eu l'idée en fait ensemble.
En fait, l'idée du concept de cette émission, que vous pouvez retrouver donc, tous les samedis soirs sur France 3
à 19h.
À 19h. Et c'est aussi sur la plateforme. Et des fois, on met des petits extraits. Il y a les épisodes aussi qui sont sur YouTube et Facebook. Et en fait, je crois que c'est Sidonie Canetto qui a eu cette idée de, parce qu'elle connaissait très bien Abdoul. Elle disait bah là, tu devrais
Sidonie,
faire des.
Excusez-moi.
C'est une amie
journaliste. C'est une amie qui bosse
de France 3.
Ouais, une journaliste. France 3. Et en fait, elle connaissait bien Abdoul et dit mais tu devrais faire des interviews, etc. Donc ils ont commencé à tester un petit peu, à faire genre pilote, tu vois. Et après Anne-Sophie qui est aussi une amie de journaliste d'Abdoul.
Maintenant
c'est notre rédactrice en chef. Okay. Et du coup elle s'est dit ouais c'est génial, tu vois, donc ça a commencé, il y a une émulsion là-dessus. Et après du coup ils m'ont fait rentrer un peu dans la danse pour booster un peu plus le concept.
D'accord.
Et c'est là que moi j'ai découvert Abdoul parce que moi je ne connaissais pas. Voilà. Donc ils sont venus me chercher, ils m'ont dit ouais
quoi, connaissais pas Abdoul?
Je connaissais pas Abdoul.
Non, on s'est vu une fois.
Ouais, je m'étais fait interviewer par Abdoul à l'époque.
Non, mais
ta chaîne
Provence Azur. Non, mais à la base, en gros aussi, c'est parti parce que France Télévisions a eu les droits du Festival de Cannes. Parce qu'à la base, ils voulaient carrément une émission de cinéma ou quelqu'un qui représente quelqu'un dans la région, quoi.
Bien sûr.
Et ça est arrivé en 2022. Ouais. Et là, après Canal+, ça a arrêté en 2021 pour le Festival de Cannes. Et nous, on est arrivé en 2022, quoi. Ils se sont dit, bon, on veut quelque chose.
Et ouais, puis c'est surtout que c'est une terre de cinéma, Marseille. Ça tourne grave. Il y a beaucoup de films de séries.
Bien sûr. Ouais. Maintenant, oui.
Et donc, du coup, j'ai rencontré Abdoul. Puis je dis,
Abdoul.
Ouais, je dis, et on me dit, bon, bah, Nico, il faut que tu sortes l'émission, il faut que tu trouves un style et tout. Donc, moi, tu vois, le concept un peu producteur artistique. Tu vois, je regarde, il m'envoie 2-3 photos. Je fais, Abdoul, passe-moi 2-3 photos. Il m'envoie ses photos. Il y avait des vieilles caméras derrière lui. Et je dis, je regarde comme il est sapé, je dis, waouh, putain, le mec, il est vintage à mort et tout, quoi. Et je dis, voilà, et donc on va faire une émission cinéma aussi qui l'interview des stars ou même des gens qui sont pas connus, hein. Mais il faut qu'il garde son style vintage. Donc okay. Je me suis dit, la caméra qui est derrière lui, donc c'est la caméra 8 mm, la Super 8 mm, j'aimerais bien la mettre en jeu dans cette émission.
Ah, c'est ton idée, la petite caméra.
Qu'elle devienne le symbole de l'émission.
La star. Okay. La star.
Et
de
en fait,
l'émission.
Cette caméra okay. ne marche pas. Mais je me suis dit, on va la faire refonctionner. Mmh. Et donc, il a fallu que je fasse un truc un peu à la MacGyver. C'est-à-dire chercher sur le bon coin.
Il ne faut pas le dire.
Bah, si, on le dit.
D'accord. Savoir, on a la cité métisse. Nous, on tout savoir.
On vous dit tout.
On vous dit tout.
Mondial.
Le concept de Abdoul et fait son cinéma, yes, qui est tourné avec deux caméras. Et bien, figurez-vous qu'on a rajouté une petite GoPro cachée. Oh, dans la caméra 8 mm.
Ah, il a tué le mythe.
C'est pour ça qu'il voulait pas le dire. Ah,
là, c'est...
Il a tué le mythe.
Mais c'est...
On
a enregistré
360, voilà. En plus, c'est trop tard.
Pour les fidèles, il faut...
Ah, génial.
Il faut
et alors, non, il faut expliquer la créativité. Ouais.
Donc du coup, Abdoul interview avec cette vieille caméra. Et à l'intérieur, il y a une petite caméra miniature qui
excellent.
Filme.
Que téléspectateurs ne voient pas.
Voilà,
tout à fait.
Et ça fait tout le charme de l'émission. Okay. Parce que... Et voilà, et il m'a adopté, et du coup, maintenant, on enchaîne.
Par contre, il y a un truc, moi, qui m'intéresse quand j'ai vu, effectivement, toutes ces petites interviews, c'est que je trouve qu'il y a un côté, en fait, intimiste. Donc ça, en fait, c'est toi qui as voulu, justement, ce petit côté intimiste, plutôt que de faire un focus sur leur œuvre, sur leur rôle et tout. Alors,
ouais,
bien entendu, vous parlez de l'actualité, c'est évident. Mais je trouve qu'on rentre vraiment, en fait, tu vois, dans presque l'intimité, ce qu'on fait à ça, toi... Tu vois, à un moment donné, je fais du yoga le matin, enfin bref, on rentre dans quelque chose et tout un petit peu intimiste, et je trouve ça...
Ouais, parce que
je voulais ça
parce que je me dis à chaque fois, les gens connaissent pas les acteurs, quoi.
Ouais, j'avoue.
Tu vois, même moi, qu'est-ce que fait un acteur quand il se réveille le matin? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il est? Ouais. Est-ce que moralement il est bien? Tu vois, il arrive dans le studio de tournage ou même au tournage. Est-ce qu'il est bien luné ou pas, quoi? Ça peut arriver. Hein. Moi, tu te lèves le matin, t'es pas bien parce que pour X raison, tu vas rencontrer un fan qui est fan de toi, tu vas l'envoyer bouler, ça peut arriver. Hein. Mais tu sais pas ce qu'il a eu, la personne a eu la veille. Tu vois, et moi, du coup, il me raconte tout ça. Est-ce que par exemple, le Real est satisfait de son boulot de la veille et tout?
Bien sûr.
Comment ça se passe au maquillage? Parce que les gens, ils savent pas comment c'est un tournage. Parce qu'un tournage, enfin, je veux dire, si t'as jamais assisté, j'essaye justement de demander aux téléspectateurs. Ouais, parce que je suis à la radio là, du coup, ça va. Voilà, ou bien les auditeurs qui nous écoutent, et leur dire comment c'est un tournage, parce que c'est important aussi, quoi.
Bien sûr.
L'envers du décor, tous ces trucs-là, du coup, ils me racontent, ou bien même les anecdotes de tournage. Mm-hmm. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, est-ce que, par exemple, ils sont là. Ils oublient leur texte. Tous ces trucs-là font qu'ils me livrent tout ça, quoi. Je trouve que c'est sympa. Génial. Et puis ça change, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est toujours les mêmes questions.
Du coup, je trouve que
c'est important aussi de changer.
Tout à fait.
C'est de... Ouais, ça m'est déjà arrivé. Voilà, j'avais tourné à Nice. Mm-hmm. Parce que Nico, il n'était pas là, parce que parfois, il me... Ah non, il était là, hein, Bonello. On est allé interviewer Bertrand Bonello à Nice.
Ouais.
Et moi, j'avais préparé la veille et tout, ce qu'il faisait, les anecdotes, les machins et tout, sur sa fille, sur le festival de Cannes, parce qu'il habite Nice. En gros, il était venu présenter une expo, c'est ça, d'un compositeur de musique, voilà, d'un compositeur autrichien. Et en gros, c'était dans le théâtre de Nice.
Okay.
Tu vois, l'opéra de Nice. Et en gros, moi j'ai. Et là, on était sur la promenade des Anglais, parce que là, parce qu'à chaque fois, Abdoul fait son cinéma aussi.
C'est
plein de lieux. Ouais. Tu vois, nous, on essaye de quand même que ce soit.
Oui, tu es à l'extérieur.
En extérieur, en mouvement surtout. Ouais, en mouvement, parce que c'est très important. Bouger, c'est pas un truc, t'es assis, c'est figé.
Tout à fait.
Et en gros, elle arrive et tout, je lui dis, ah, mais toi, t'es quelqu'un de la région, parce qu'il est né à Nice.
Ouais.
Du coup, il a quitté Nice, ça fait très longtemps, parce qu'il a 56 ans.
Okay.
Et là, j'avance et tout, je dis, mais quand même, t'as un lien avec la Côte d'Azur et même dans notre région. Et même ta fille est née à Cannes et tout. Et là, il me regarde, il me dit, putain, mais tu sais tout ça et tout. Je dis, bah oui, parce que je fais mon taf.
T'as bossé.
Ouais, j'ai bossé et tout. Et voilà, je lui ai sorti plein d'anecdotes. Et ça lui a fait plaisir. Tu vois, je sentais que quand même, il s'est dit, bon, lui, il arrive, c'est pas le mec qui sait rien de moi.
C'est la énième
interview. Comme... Ouais. Et en plus, ils ont un ego. Hein. Il faut pas croire. Ouais, ils aiment bien quand tu les encenses et tout. Parce que c'est un milieu qui est comme ça. Le cinéma, c'est voilà, et c'est des petites anecdotes. Voilà, et puis parfois, des fois, ça fonctionne pas. Par exemple, on a eu Michel Gondry. Nous. Tu vois, Michel Gondry, il est un peu barré. Excuse-moi, Michel. Mais non, mais c'est vrai, en plus, il est bipolaire. Je sais pas, vous connaissez Gondry? Comment s'appelle le film où ils sont dans une vidéothèque là, avec,
c'est lui qui a fait le clip de IAM.
IAM.
Je danse le Mia.
Le Mia. Et non, surtout, il a fait Mos Def. Il a un film où ils sont dans une. Avec Jack Black. Vous avez pas vu
tout à fait.
Soyez sympa, rembobiné.
Soyez sympa, rembobiné.
Rembobiné, là. Voilà, ouais, c'est lui ça. Le Gondry. Okay. Alors, on arrive dans une petite. Au départ, nous, on voulait déambuler aux variétés.
Ouais.
Il arrive et tout était calé. Ah bah, ouais. Monsieur, il avait fait ses caprices en disant non, mais moi, je vais.
Non, c'était pas les caprices. C'est parce qu'il était fatigué.
Oui, mais pas. Ah, bah oui. Je veux dire, on aurait pu déambuler un peu, ça va. Ça te dérange pas d'y mettre. Faire 10 mètres dans un truc.
Bon, du coup,
on s'est retrouvé dans un local de 10 mètres carrés avec l'attaché de presse qui avait son chrono, parce qu'il faut savoir, il y a ces trucs-là. Ouais. Tout est chronométré, tu vois, ils sont hyper carrés dans ce truc-là. Mmh. Et là, du coup, ça m'a fait une mauvaise ambiance.
Et bien sûr.
Tu vois, c'est étouffant. C'est en plus, nous, on est souvent. Passé. Oui, non, mais après, oui, mais on a quand même bossé quoi, là-dessus, quoi, parce qu'en plus, t'as l'attaché de presse qui est là. T'es là, c'est long truc, lui mettait le truc, il avait très peu de temps, il était fatigué. Mais on a réussi quand même, tu vois. Au départ, il est là, oh bah ouais, mais c'est quoi ces questions, machin et tout. Et du coup, l'avantage d'Abdoul fait son cinéma, c'est de me remettre à l'aise. Moi, j'arrive à les mettre à l'aise, et là, il était détendu, j'ai halluciné, quoi. Je l'ai regardé comme ça. Après, à la fin, il fait le clap de fin. Il était content de nous. On a réussi à le ramener vers nous, quoi, tu vois.
Alors justement, ce qui serait sympa là, puisque je vois que l'heure et tout tourne assez rapidement, c'est qu'on fasse un petit focus en fait tous les deux là. Qu'est-ce que vous avez prévu justement pour le Festival de Cannes? Parce qu'ici, on l'a peut-être pas dit en début,
ou
peut-être on en a parlé tout à l'heure. Vous allez faire le Festival de Cannes à partir de ce week-end.
Ça ouvre le 13 mai. C'est le mardi 13 et Nico il sera avant parce qu'il va faire des trucs et moi j'arrive le 14.
Donc vous avez prévu de faire des émissions Abdoul fait son cinéma ou il y a des interviews prévues?
Il y a deux Abdoul fait son cinéma pour l'instant qui sont pratiquement, on va dire, à 99%.
On peut pas dire avec qui?
Si, on peut le dire. Hein. Il y a Laurent Lafitte
avec
Géraldine Palace, elle est originaire d'ici. Et après, on fera Pagnol aussi, le fils Pagnol.
D'accord.
Et le petit-fils Pagnol, Nicolas Pagnol, avec Sylvain Chomet, qui est le réalisateur du film sur Pagnol. Quoi. Okay. Et moi, le 14, je vais faire c'est un live que je fais. Sur la croisette, je vais chercher Tom Cruise. Parce que Tom Cruise, il vient pour la suite du film
Mission Impossible.
Ah, la seconde partie.
Il va arriver en hélicoptère.
Voilà. Et
il adore vraiment ça, lui. Hein. Voilà. Les JO, il débarque en moto, là, en hélico.
Mon but, c'est de. Ouais. C'est de.
Essayer de l'attraper.
De parler.
D'aller lui taper la bise.
D'aller lui faire taper. Donner n'importe quoi. Non, en gros. Non,
il fait que la bise. Oh, tu t'es trompé. Il est pas blanc.
Mais non.
Lui, c'est que des blondes, lui.
Non.
Attends, moi, je t'en raconte une.
Il me dit non. Toutes les photos que je vois, c'est des blondes.
Je t'en raconte une. C'était l'année dernière. Et toi, ma mission, c'était de trouver Tarantino. Donc, à un moment donné, je trouve Tarantino dans l'hôtel. J'ai dit, ça sentait bon. Et là, il y avait Abdoul qui était avec moi et tout, ça papote. Et là, d'un coup, je sors, je me dis, ouais, c'est chaud, là, je pense qu'il va arriver. Et je le vois arriver, Tarantino. Je sors de l'hôtel pour, filmer quand il rentre dans la voiture. Tu sais, ambiance paparazzi, hein, tu vois, ça va très très vite. Et là, je sais pas ce qui se passe, il rentre pas dans la voiture, il s'arrête, le garde du corps, il se retourne. Abdoul, il sort par l'entrée de l'hôtel.
Et il s'arrête,
et il lui serre la main, et il commence à parler avec lui. Mais j'avais pas branché de micro sur Abdoul. Je dis, il m'a niqué mon plan là. Parce que, tu vois, Abdoul, il est référencé chez nous. Donc, comme c'est un animateur, un présentateur d'émission. Ouais. Donc, du coup, si j'exploite la vidéo, on dit, ah, c'est dommage, on n'a pas la discussion.
Ouais,
tu vois.
Donc, tu vois, là, on s'était pas bien organisé. Des fois, ça se passe.
Du coup, il connaissait. Toi, tu l'avais attrapé avant.
Après, on a tchatché, il faut savoir que Tarantino ne donne pas d'interview comme ça. Quoi.
Ouais.
Il s'est arrêté, on a discuté un peu, mais ça a duré. Il y avait les gardes du corps et là, à un moment donné, je lui dis salut, on commence à parler et tout. Et il y a le garde du corps qui vient vers moi et Tarantino qui le repousse un peu en lui disant ça va, et laisse discuter. Quoi. Après, il s'est barré. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. C'est,
moi, je vais faire aussi un autre contenu. Parce qu'il y a les Abdoul Fesson Cinéma qui vont être. On va les enregistrer.
Bien sûr.
Pour les diffuser prochainement. Et je vais faire un contenu que j'ai testé là, pendant à Saint-Tropez là, pour l'événement Les Chefs à Saint-Tropez qui fête les producteurs. Mmh. J'ai acheté les lunettes Ray-Ban connectées.
Ah oui, qui filment.
Qui filment.
Ouais. Alors ?
Et donc, du coup, je suis assez bluffé. Hein, il y a une belle qualité. Et je vais faire un contenu qui s'appelait Regard Connecté, okay. Festival de Cannes.
Okay.
Et donc, comme je suis un peu partout avec Abdoul, un coup on est sur un rooftop, un coup on interview un acteur, sur un bateau, machin, on change d'ambiance, etc.
On boit une coupe de champagne.
On boit, ouais, de l'eau aussi, hein, parce qu'il fait chaud à Cannes et tout, il faut tenir la quinzaine. Et du coup, ça fait plein de petites ambiances ou d'interactions que je pourrais avoir.
Génial.
Et du coup, ça ferait un tour de mini-zapping et de rétro d'une journée qui okay. s'appellerait Regard Connecté. Je viens d'en poster un là sur ouais. mon compte.
Génial.
L'Ascogram sur Instagram, L-A-S-K-O-G-R-A-M. Je viens de la poster à l'instant, c'est mon pilote d'émission. Je vais un peu le retravailler, mais voilà, c'est Regard Connecté.
Et le concept que tu faisais à un moment donné, tu sais, où tu prenais ta caméra et tu allais te rendre dans différents coins du monde, que je trouvais à
Human World Inside.
Human World Inside, je trouvais ouais. ça très intéressant.
J'avais commencé à Marseille.
Ah, c'est à Marseille que tu avais commencé ?
Ouais. Bah, Marseille, c'est mon terrain de jeu. Hein. Ouais. C'est là où c'est que ça part toujours de Marseille. Donc,
ouais,
j'avais fait 20 portraits de Marseille et Marseillaise. Donc, ça s'appelait Marseille Inside. Donc, j'avais accroché des caméras miniatures au niveau du cœur des gens pour être au cœur des Marseillais. Et donc, du coup,
génial.
L'épisode, il est complètement en inside. On voit seulement c'est un portrait non-portrait, puisqu'on commence en inside et à la fin, la caméra revirevolte et on découvre le personnage seulement à la fin de l'épisode. Marseille Inside, ça a super bien marché. Il y a une exposition interactive au Dog Village, que je salue au passage.
Uh-huh.
Et c'est là que j'ai rencontré mon coproducteur qui est venu et qui a voulu acheter carrément la marque que j'avais développée.
Pour partir un peu partout dans le
monde. Et donc, je dis, si tu veux, on fait 50-50, mais faut que tu m'aides à partir loin, quoi. Tu vois, j'ai envie de. Après Marseille, on va où ? Vas-y, fais-moi plaisir. Et lui, il m'a dit, c'était juste avant la guerre. On a dit, on part à Moscou. Donc, j'ai fait Moscou Inside, juste avant la guerre. Et c'était vraiment incroyable. Cette ville, elle m'a vraiment surpris.
T'as pas fait que ça.
Alors, après, du coup, Moscou, ça a super bien marché. Et après, je suis parti, j'ai fait Guadeloupe Inside.
Ouais, Guadeloupe, j'ai vu.
Guadeloupe Inside, la série, elle a cartonné, elle a fait 1 million de vues.
Ah ouais.
J'ai fait 10 portraits de. Toujours, c'est un cuisinier, un photographe,
sportifs,
un artiste,
sportif
un sportif. Ouais. Voilà, tu vois, j'essaie de. Éclectique, homme, femme, pour comprendre un peu qui sont les habitants. C'est une nouvelle façon de découvrir une destination, puisqu'on est au cœur des gens de la Destie.
Ce qui capte l'attention, je pense, c'est la manière et tout dont tu filmes.
C'est eux qui sont acteurs et qui nous montrent un peu ce qu'ils font avec leurs mains, etc.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, la Guyane, tout de suite, dès que j'ai sorti Guadeloupe Inside, la Guyane a voulu la même chose. Donc, je suis parti en Guyane ensuite
trop bien.
Guyane Inside. Oui.
Ouais, les amis.
Quand tu dis la Guyane a voulu, c'est quoi ? C'est la région Guyane qui t'a appelé pour.
Ouais. En fait, mon coproducteur, celui qui a signé la marque avec moi, il travaille aussi pour Tourmag. Et donc, il a vraiment des connexions avec tous les opérateurs, tous les offices de tourisme, etc. Et donc, du coup, il promouvoit notre concept Human World Inside à différentes destinations. Donc là, par exemple, les Émirats arabes, les Émirats, en fait, ils seraient par exemple intéressés pour faire une série avec nous.
Ok. Alors, les amis, je suis désolé de vous couper parce qu'on pourrait continuer avec toutes les histoires et magnifiques en fait que vous avez à nous raconter. Mais là, il arrive, c'est l'heure de clôturer un petit peu l'émission. Donc, et voilà, notre émission touche à sa fin. Donc, merci Gary d'avoir assisté à notre émission. Donc, je vous rappelle que le festival Cadence Caraïbes se déroulera à la Cité de la Musique à Marseille le samedi 17 mai à partir de 18h. Soyez à l'heure, cela risque d'être exceptionnel si tu es fan de jazz créole comme nous le sommes, ce festival est pour toi. Alors va vite prendre ta place. Pour plus d'informations, allez sur le site cadence-caraïbes.com. Un immense big up à nos amis Lasco et Abdoul pour leur énergie communicative. C'était un honneur, messieurs, de vous recevoir tous les deux. Quelle énergie! N'hésitez pas à suivre leur actualité sur les réseaux Facebook, Instagram.
Abdoul fait son cinéma.
Yes! Ils nous réservent très prochainement des pépites durant le Festival de Cannes qu'ils vont couvrir. On profite de ce moment de dédicace pour féliciter lourdement tous nos copains et copines de la Fiesta des Suds qui ont concocté une programmation du tonnerre pour l'édition 2025. Kassav, Blaise, Faya, Bambi, West Indies Represent et bien d'autres tout aussi de prestige. Bravo l'équipe, merci à vous de faire venir à domicile des artistes de cette envergure full respect. Et enfin, fidèle auditrice, fidèle auditeur, on vous love. Wim Wenders a dit « Le cinéma peut changer le monde. Il peut montrer ce qu'on ne peut pas voir. Il peut faire entendre les silences. »
Je vous rappelle que La Cité Métisse est diffusée tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère. 88.4 de la bande FM à Marseille, sur radiogalère.org et sur le canal 8C du DAB+. Cette mensuelle sera rediffusée ce vendredi 9 mai de 22h à 23h30. Restez connectés sur l'Instagram de La Cité Métisse et bien entendu sur Spotify pour suivre l'intégralité de nos précédentes émissions et autres interviews.
On se retrouvera très vite début juin avec deux jeunes musiciens de talent sur un plateau exclusivement live comme on les aime tant. Nous vous souhaitons un excellent mois de mai, riche en long week-end, vous permettant ainsi de vous jeter sur les différentes scènes de festivals pour aller voir des concerts et autres événements culturels en tout genre. Zéro modération conseillée à la famille. Restez connectés et n'hésitez surtout pas à nous follow sur l'ensemble de nos réseaux sociaux pour de plus amples informations. Très belle soirée à vous. À très vite. Portez-vous bien. Peace. Peace. Bye bye. Et là, Squad Doul. Bye
ciao,
bye.
Ciao.
Guys.
Ciao.
Bye bye.